fini enfin par acquérir le droit de vote et l'ont acquis, de haute lutte. Hein, c'est vraiment pas quelque chose qui a fini par venir comme ça tout seul. Il y a eu des associations militantes qui ont eu des stratégies et qui, pendant de longues années, se sont battues. Donc voilà, vous avez tout à fait raison, on a élargi...
Bonjour François Aimé.
Bonjour.
Alors vous êtes le grand démiurge de cette manifestation, commissaire général du Festival du film d'histoire. On est présent là à Passiac pour la 32e édition. Qui s'intitule Masculin-féminin, toute une histoire. Comment s'est élaboré le thème de cette édition ?
Alors, en fait, c'est le conseil d'administration du festival qui décide du thème, qui était déjà évoqué depuis plusieurs années, avec comme réaction en 2017-2018 que finalement, on parlait de la vague MeToo. Hein, comme quelque chose qui surgit et qui va retomber en quelque sorte. Sauf que c'est tout le contraire qui s'est passé. Et on a été obligé de constater, déjà l'année dernière, peut-être encore plus aujourd'hui, qu'il y a, on parle de révolution plutôt que de révolution sociétale, plutôt que de vague. On parle du changement des relations entre les hommes et les femmes. On dénonce les comportements sexistes, les violences, le fait que les droits des femmes et des hommes ne sont pas forcément égaux selon les pays, selon les situations, etc. Et autrement dit, le thème imprègne notre société d'aujourd'hui. Et par rapport à cette actualité permanente, j'ai envie de dire, depuis maintenant 5 ans, le fait d'offrir la perspective historique, parce qu'il y a des historiens, et plus précisément des historiennes, qui ont travaillé sur ces questions-là depuis un demi-siècle à peu près. Or, elles ont un peu travaillé dans leur coin, en fait, pendant longtemps. Et puis maintenant, quand je dis dans leur coin, c'est absolument pas péjoratif, c'est-à-dire qu'elles étaient connues et appréciées à la fois du milieu universitaire, du milieu intellectuel, du milieu militant, et pas forcément au-delà de ces milieux-là. Et l'intérêt de ce festival, c'est de faire partager le fruit de leurs recherches et de le mettre en relation avec la programmation cinéma. Et le cinéma a cette position très ambivalente par rapport au thème masculin-féminin, à travers le star system, à travers le cinéma hollywoodien, le cinéma occidental. Le cinéma s'est attaché à magnifier à certains clichés, qui étaient en fait des clichés très sexistes. Et en même temps, depuis 20 ans, 30 ans, et grâce à certains cinéastes, il y a aussi un regard critique sur ces clichés, avec dénonciation du patriarcat, valorisation des combats féministes. Donc voilà, donc avoir le regard en termes de perspective des historiens, et puis le contre-champ, en quelque sorte, des cinéastes.
Contre-champ, pour prendre un terme justement du cinéma. Et par rapport à vos invités, vous avez mentionné justement les historiens, les historiennes. Certaines personnes n'étaient jamais venues à Pessac, comme justement Françoise Thébault ou Isabelle Matamoros, qui sont enchantées d'être présentes. Et cette thématique que vous avez choisie pour cette année, cette 32e édition, justement, ouvre des portes à des personnes qui ne connaissaient pas le festival.
Oui, vous avez tout à fait raison. Françoise Thébault travaille sur l'histoire des féministes, l'histoire des femmes pendant la guerre 14-18, depuis 50 ans. Enfin, elle a un champ de recherche encore plus large. Hein. Je cite certains aspects de son travail. Donc, elle a participé, par exemple, ce matin à une séance scolaire avec des lycéens. C'est autour du film Les Suffragettes de Sarah Gavron. Bon, c'est une histoire, en fait, que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas du tout. C'est vraiment comment, pays après pays, les femmes, particulièrement en Occident, ont en quelque sorte, avec ce thème, notre carnet d'adresse, en quelque sorte, des historiens, des historiennes, qui jusqu'à maintenant n'avaient pas pu être sollicités par rapport au champ qu'on avait. Même si quelqu'un, bien sûr, comme Michel Perrault était déjà venu, évidemment, donc qui a donné la conférence inaugurale, ou quelqu'un comme Manuela Martelli également.
Alors François Aimé, justement, vous mentionnez les historiens et les historiennes avec les études genre, mais là, ça va au-delà puisque les étudiants touchent à tout. la sociologie, la politique. Ça touche à vraiment des champs d'études et de recherches très divers.
Oui, il y a effectivement une transdisciplinarité.
C'est pour ça que je ne le disais pas.
c'est vrai. Mais on reste quand même un festival du Finistoire. C'est-à-dire que la priorité est quand même donnée aux historiens, aux historiennes, aux gens de cinéma. On accueillera Manon Garcia, pardon, autant pour moi, qui est philosophe. On accueillera des sociologues, un petit peu, hein, et des journalistes, comme on le fait chaque année. Donc c'est un peu plus transdisciplinaire que certaines années, c'est vrai.
Vous avez aussi des coups de cœur littéraires. Là, j'ai pu rencontrer Fabrice Virgili, mais il y a aussi Claude Aziza, Dominique Picot. Vous les conviez sur quelle base ?
En fait, si vous voulez, ce sont des invités. Dominique Picot, elle est spécialiste de l'éducation des jeunes filles au XVIIIe siècle. Et donc, parmi tous les invités qu'on a, il y en a 5 ou 6 à qui on demande de faire partager un coup de cœur littéraire. Donc, en fait, c'est très varié. Ça peut être quand je dis littéraire, d'ailleurs, ça peut être un livre d'histoire, ça peut être un roman. Voilà, c'est aussi pour élargir le champ, d'intégrer effectivement l'édition. On a la chance d'avoir une librairie juste à côté du cinéma, la librairie Encre Blanche. Donc, c'est un rendez-vous en petit comité qui fonctionne bien.
Qui, d'ailleurs, vu sa vitrine, joue le jeu pendant le festival.
Ah oui, oui, oui. Non, mais pour les gens qui s'intéressent au cinéma, à la culture, à la littérature et à l'histoire, c'est vraiment le rendez-vous, j'ai envie de dire, un peu de la région. Hein.
Et j'ai vu, en tout cas, en attendant dans l'espace du bar, il y a vraiment une abondance de spectateurs. C'est vraiment très prisé, maintenant, le Festival du film d'histoire de Pessac.
Oui, ben, en fait, donc c'est la 32e édition. Hein, 32e édition, il y a un public très fidèle. Je pense, enfin, peut-être un peu prétentieux, mais il y a quand même un gage de qualité. Et puis, il y a cette ambiance que les gens apprécient beaucoup. Le fait qu'ils ont beaucoup de choix, qu'il y a une des particularités de Pessac, c'est l'alternance entre les films et les débats. Souvent, dans les festivals de cinéma, ben, il y a des films. Et quand s'il y a un débat, c'est sur le film. C'est pas sur autre chose que le film. Tandis que nous, il y a ce thème générique et qui se décline de plusieurs manières, avec les scolaires, avec les films et les débats. Et on voit bien, l'évolution, c'est sur 10-15 ans, que la part prise par les débats a tendance à s'étoffer. Les gens, il y a vraiment un appétit pour les débats, et surtout quand les intervenants sont de la qualité. Enfin, on parlait de François Stébon, de Michel Perrault, il y a Yvan Jablonka qui vient d'arriver, et Isabelle Matamoros, Odile Rouanet. Enfin voilà, vous avez bientôt Christine Barre, Christiane Rochefort. Enfin, c'est des personnes très sérieuses qui ont travaillé pendant des décennies sur leur sujet, qui les font partager de manière très accessible. Cette accessibilité qui est importante. Hein. On n'est pas dans un colloque. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien les colloques. Mais le colloque, il y a quand même une dimension universitaire. C'est des universitaires qui se retrouvent pour échanger.
L'érudition.
L'érudition et le fruit de leur recherche. Voilà, chacun partage. Tandis que là, on élargit cette jeune fille vraiment aux amateurs d'histoire, aux gens qui ont envie de participer à un événement culturel et de mieux comprendre certains enjeux.
Et j'ai ouï dire que parmi le public qui attend pour entrer dans les séances, il y a beaucoup de gens qui sont déjà des habitués d'Unipop. Vous pouvez nous parler d'Unipop ?
Oui, bien sûr. En fait, on a lancé en 2010 l'Université populaire du cinéma, qui ensuite s'est élargie et est devenue aussi l'Université populaire d'histoire. Donc c'est un programme de soirée qui intègre à chaque fois une conférence et un film. Et donc tous les lundis, entre septembre et juin, en vacances scolaires, on propose une rencontre avec un historien et avec un film. Et tous les jeudis, c'est sur un thème soit cinématographique, soit plus largement artistique. Et les gens s'inscrivent à l'année, s'abonnent en quelque sorte à ce programme, avec un tarif très bas, puisque c'est 39€ pour l'année, hein, pour les conférences. Après, les gens payent pour le film. Et c'est une formule qui plaît énormément. C'est vrai que le Jean Eustache est identifié maintenant comme un lieu d'histoire et de cinéma. On a 700 inscrits pour le lundi et 700 inscrits pour le jeudi. Donc il y a un appétit pour ces rencontres-là. On a fait en quelque sorte un peu fructifier les bonnes relations qu'on avait avec les historiens et avec les cinéastes, qui sont contents de venir à Pessac, de revenir à Pessac. Là, tout à l'heure, j'étais avec Michel Dominici, qui a réalisé un documentaire sur la vie des femmes au foyer, qu'on avait présenté l'an dernier, il y a déjà 18 mois, sur l'Université Populaire, et puis qui est revenu sur le festival pour présenter son film, et puis qui maintenant revient pour être dans le jury. Voilà. Donc, autrement dit, les invités vont de l'Université Populaire au festival. C'est un enrichissement entre ces deux dispositifs, en quelque sorte.
Vous avez mentionné en début d'entretien les scolaires.
Oui.
Quelle est la part dédiée aux scolaires, que ce soit les lycéens, les collégiens ?
En fait, si vous voulez, les scolaires, c'est un festival à l'intérieur du festival. C'est-à-dire qu'il y a une offre considérable de 20 films qui sont chacun accompagnés d'un dossier qu'on rédige, qu'on produit en quelque sorte au sein de l'équipe du festival. Et surtout, les films sont accompagnés en salle d'une intervention d'un historien, d'un réalisateur, d'un membre de l'équipe. Et la chance qu'on a, c'est que comme sur le thème, on présente des films de répertoire. Beaucoup de festivals, quand ils présentent des séances scolaires, présentent des nouveautés, des avant-premières. Et donc ces avant-premières, ces nouveautés, ils ne les connaissent que quelques semaines avant le festival, ce qui est très compliqué pour organiser, pour informer les enseignants, pour que les enseignants aient le temps de s'organiser. De notre côté, on communique une programmation scolaire au mois de mai, autrement dit 6 mois avant le festival. Donc ça, c'est capital, c'est-à-dire 6 mois avant le festival, on propose 20 films, donc quelle que soit votre matière, alors les matières de prédilection, c'est quand même anglais, français, histoire, espagnol, instruction civique, ça peut être philosophie aussi ou cinéma. Et donc les enseignants ont 6 mois pour choisir et ensuite pour s'organiser, demander l'autorisation au chef d'établissement, etc. Et c'est un des gages de la réussite scolaire. Sachant qu'en plus, donc il y a les scolaires qui viennent à Pessac, mais on s'organise pour faire les propositions de Pessac, pour les délocaliser dans une trentaine de villes de Nouvelle-Aquitaine. Les films sont accompagnés par les intervenants. Et cette année, il y a 11 000 élèves qui suivent les propositions du festival à Pessac et dans les autres villes. C'est considérable. Et ce qui est surtout très réconfortant et encourageant, c'est le retour qu'on a des élèves. C'est-à-dire que là, sur le thème masculin-féminin, c'est un thème qui parle. Je parlais des suffragettes, on peut parler de, je sais pas, de We Want Sex Equality sur l'égalité salariale, on peut parler de Joula comme Beckham sur les clichés garçons-filles, sur une fille d'origine pakistanaise qui joue au foot. Enfin voilà, ce type de films-là sont vraiment parfaits pour engager une discussion avec les élèves.
Et vu l'échange que vous avez avec les établissements scolaires, il y a un travail en amont important des enseignants.
Oui, alors nous, on donne, si vous voulez, on donne ces fameux dossiers qu'on appelle les ciné-dossiers de 8 pages que les enseignants ont au mois de septembre. Et donc, ça leur permet de préparer la projection et puis de travailler dans la foulée.
François Aimé, il me semble que vous étiez déjà là, présent, quand le cinéma Jean Eustache était appelé autrement, le Trianon. C'est et ça. Qu'il a fait peau neuve.
Oui, ça on peut le dire, il a fait peau neuve. On est dans l'ancien bureau du Trianon, là, pour notre interview. Ça me fait un peu drôle d'ailleurs, donc je ne viens plus du tout dans cette pièce. Oui, le Trianon, c'était le cinéma créé en 1985. Il y avait 3 écrans, avec une toute petite entrée, avec un confort très relatif au niveau de la taille des écrans, du confort des fauteuils, etc. Et c'est vrai qu'à partir de 1990, quand Alain Rousset, élu à la mairie, reprend le cinéma, crée le festival et va, dans un premier temps, rénover le Trianon qui va devenir le Jean Eustache et surtout, après, l'agrandir. Donc l'agrandissement, c'est 2006. Et donc l'agrandissement, c'est un hall qui faisait 10 mètres carrés, qui va passer à 1000 mètres carrés. Hein, c'est 100 fois plus grand. Donc, on change de planète, on change de dimension. Et non seulement on a ce grand rôle, mais on a cette très belle grande salle de Fellini, plus de 300 places avec un très bel écran. Et puis, en plus, et là, c'est important parce que, comme le festival préexistait à l'agrandissement, on a pu penser cet agrandissement en fonction des contraintes et des besoins du festival. Et donc il y a au dernier étage du bâtiment du cinéma, qui appartient à la mairie, il y a une salle de réception, il y a une salle de réunion, il y a d'autres salles de réunion pour les scolaires. Enfin voilà, on peut faire le festival du début à la fin, tout en restant dans le même lieu, y compris pour manger.
Et des espaces dédiés justement aux conférences, aux
rencontres. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a certains débats qui se déroulent dans les salles de cinéma, mais il y a d'autres débats qui se déroulent au troisième étage. Donc ça permet de continuer l'offre de films, tout en proposant des débats.
Là, on a parlé de vous en tant que commissaire général du Festival du film d'histoire de Pessac. Vous êtes aussi partie prenante dans l'Association française des cinémas d'art et d'essai. Comment se portent actuellement les cinémas d'art et d'essai en France ?
Alors, je suis président d'honneur depuis trois semaines à peu près. J'ai été président pendant de 2015 à 2022. En fait, les cinémas essai souffrent comme la plupart des cinémas, ils souffrent un peu moins. Ils souffrent un peu moins pour donner des chiffres et des repères. La tendance nationale en France est à moins 30%, les multiplex sont plutôt à moins 40% et les cinémas essai sont plutôt à moins 15% ou moins 20% de fréquentation par rapport aux années qui ont précédé le Covid. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tous les cinémas réfléchissent à comment mieux travailler, comment mieux communiquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne le faisait pas avant, mais on en sent encore plus la nécessité. Que quand on le fait, on a des résultats, ça c'est important, donc c'est encourageant. Les cinémas essai s'appuient sur un public qui est plus fidèle, qui est plus cinéphile, qui est plus curieux. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, c'est notre capital en quelque sorte, c'est le fruit du travail qu'on a généré pendant des décennies pour beaucoup de lieux. Donc voilà, mais il faut quand même sans doute un peu réinventer notre façon de travailler, à la fois d'un point de vue économique pour un peu plus mutualiser certaines choses, mais je pense aux réseaux sociaux, je pense à l'animation des débats, voilà. Et il faut être encore un peu plus dans des logiques d'éditorialisation, c'est-à-dire aujourd'hui, un spectateur a une offre pléthorique sur une multitude de supports qu'il peut regarder un peu quand il veut. Donc, si on remonte à 20 ans en arrière, voilà, tout a changé. Et sauf que le cinéma a cette capacité de rassembler les publics. Quand on dit que c'est une sortie collective parce qu'on se retrouve avec des gens qui viennent voir le même film que nous, qu'on ne connaît pas, mais c'est aussi une sortie collective à l'intérieur du couple ou à l'intérieur de la famille ou entre amis, parce que on a quand même, de manière assez étonnante d'ailleurs, hein, une individualisation des pratiques, c'est-à-dire à l'intérieur d'une maison, un soir à 21h, il peut y avoir trois personnes qui regardent trois choses différentes, trois films différents. Alors on peut se dire c'est super, chacun regarde ce qu'il veut, mais on peut aussi le regretter en se disant que du coup, on n'échange plus sur ce qu'on regarde. Le cinéma a quand même encore offre cette possibilité de dire ben, on va voir la même chose au même moment et ensuite on en discutera, on partagera quelque chose. Et cette dimension-là, sociale, culturelle, elle demeure très forte. Donc par rapport à cette offre pléthorique que j'évoquais, c'est important qu'il y ait des acteurs, que ce soit des journalistes comme vous, mais aussi des directeurs de cinéma qui vous disent vous avez 200 films à voir, mais les deux que je vous propose, ils sont... Je vous les recommande vraiment, je les ai vus, et pour X, Y raison, faites-moi confiance, venez les voir. Donc, on a besoin de ça, comme on a besoin, quand on choisit un vin, si vous rentrez dans une cave où il y a 500 vins différents, si vous n'êtes pas un peu amateur de vin, qu'est-ce que vous achetez ? Il faut bien aller voir quelqu'un. Il faut bien un œnologue, un caviste qui va vous dire, écoutez, si vous aimez plutôt tel type de vin, je vous recommande celui-là, etc. Donc, ou si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, votre gamme de prix, donc c'est quelqu'un dont c'est le métier, qui est un connaisseur, qui va vous orienter. Et c'est notre métier. Dans un festival, c'est le cas, mais dans un cinéma aussi. Et je pense que si on parle par exemple des algorithmes dont on parle beaucoup ces dernières années, ce que les gens ne perçoivent peut-être pas encore aujourd'hui, c'est qu'un adolescent ou un enfant qui regarde un manga, ça peut être un manga, un film d'action, peu importe, s'il regarde ça sur une plateforme, on va lui proposer un autre manga ou un autre film d'action. Et on ne va pas lui proposer forcément un film de Charlie Chaplin, par exemple. Mais ça, c'est le rôle des parents, des amis, des enseignants, des ciné-clubs et d'un directeur de salle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il y a une consommation qui est un peu répétitive, récurrente, et on voit un peu toujours la même chose. Mais pour sortir de ça et retrouver une curiosité intellectuelle, eh bien, il y a des lieux pour ça. Il y a des journalistes, des critiques de cinéma, il y a les gens qui ont envie le bien du spectateur, qui ont envie qu'il s'ouvre. Et donc, c'est bien de rappeler cette évidence. Parce qu'on pense que l'algorithme, finalement, bah oui, c'est. Voilà, on va de manière mécanique voir toujours la même chose. Ce qui est quand même problématique. Ce qui est quand même très problématique. Parce que l'enfant de 10 ans, à un moment donné, il va avoir 15 ans. Et puis après, il aura 20 ans, il aura 25 ans, 30 ans. Donc, il va grandir. Et comment l'algorithme, lui, il va comprendre qu'il peut grandir, qu'il va grandir, hein. Donc, c'est par contre, les enseignants, les parents, les amis, eux, ils ont conscience du fait de la nouvelle maturité d'un spectateur et qu'ils vont proposer autre chose à un moment donné. Donc ça, c'est notre travail. C'est un enjeu politique, social et considérable.
Alors justement, on comprend que la dimension humaine est beaucoup plus importante que l'algorithme. À propos de dimension humaine, vous avez bercé très jeune, il me semble adolescent, dans le 7e art. C'était une passion très rapidement.
Oui, oui, oui. Alors effectivement, c'est vraiment l'adolescence, c'est vers 16, 17, 18 ans où je prends conscience, si vous voulez, je découvre les films de Fellini, les films de Jacques Tati, les films allemands de Werner Herzog, Fassbinder, Wim Wenders. C'était un peu l'époque où ces films-là étaient largement diffusés. Mais je comprends ce qu'est un cinéaste, en fait, qu'à un moment donné, c'est surtout Fellini, hein, où quand on voit La Strada, mais après qu'on voit La Dolce Vita, 8,5, on se dit, ah oui, quand même, il y a une autre façon de raconter des films, il y a un univers, parce que Fellini fait partie des cinéastes où c'est évident, dès les deux premières minutes, qu'on rentre dans l'univers de quelqu'un, comme quand on rentre, je sais pas moi, chez quelqu'un qui a une décoration particulière, on voit bien que la maison ne ressemble pas aux autres, et bien, Fellini c'est ça, donc on sent que le cinéma est un champ artistique gigantesque, et puis on sait que derrière Fellini, il va y avoir d'autres cinéastes. Bon, Jacques Tati, c'est pareil, c'est une autre façon de raconter une histoire, c'est une autre façon de rire. Voilà. Donc ça, c'est le déclic, c'est ça. C'est, à un moment donné, la découverte, enfin, pour Jacques Tati, la vision du film Mon oncle, c'est un déclic, par exemple.
Les vacances de Monsieur Hulot.
Et les vacances de Monsieur Hulot aussi. Mais Mon oncle encore plus, parce qu'il y avait l'utilisation de la musique, et puis surtout, c'est un... Les vacances de Monsieur Hulot, c'est le cas, mais Mon oncle, c'est un film, c'est une réflexion sur l'urbanisme, sur la modernité, sur le rapport au travail. Enfin, en fait, ça ouvre plein de portes quand on est jeune spectateur.
Et par rapport à l'édition, on est déjà à mi-chemin pour cette 32e édition. Quels sont encore les rendez-vous incontournables que vous souhaitez aux auditeurs, aux auditrices?
Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce soir, il y a le film Tirailleurs de Mathieu Vadepied avec Omar Sy. Demain, on a le débat avec la revue d'histoire qui s'appelle Dieu est-il macho. On va programmer un film d'animation magnifique d'Alain Huguetto, un cinéaste français. Le film s'intitule Interdit aux chiens et aux Italiens. C'est l'histoire de sa famille italienne qui a immigré en France dans les années 30. Dans une animation en volume qui est extraordinaire. On va programmer samedi après-midi un débat avec l'association des professeurs d'histoire géo sur travailleurs-travailleuses, donc les conditions de travail pour les hommes et pour les femmes. Il y aura l'avant-première du film Corsage de Marie Kreutzer, également le film Émilie sur Émilie Brontë, She Said, qui est l'avant-première du film donc, de Maria Schrader sur l'affaire Weinstein et l'enquête des journalistes de New York Times, je vais y arriver. Débat avec le journal Le Monde, avec Yvan Jablonka, Christine Barr, Manon Garcia, et j'en oublie, sur Pauline Delage, sur et Georges Vigarello, je vais y arriver aussi, sur MeToo, les 5 ans, voilà, le bilan des 5 ans de MeToo. Et puis la clôture du festival, c'est une comédie délicieuse de Stephen Frears, The Lost King. Voilà. Donc, en résumé,
En résumé, le programme est très riche, très dense. Il y a pour tous les goûts et pour toutes les générations d'ailleurs. Et vous cogitez déjà avec votre équipe sur la thématique de l'année prochaine ?
Oui, il y a des discussions, c'est ce qu'on fait habituellement chaque année. On commence à discuter des thèmes de l'année prochaine, mais je ne peux pas en parler, c'est trop tôt.
Voilà. Moi, c'est bouche cousue. Merci François-Aimé de votre
Merci
temps.
Merci à vous.